C'est l'été sur Radio Évasion, et notamment à Châtelain. Comme dans toutes les autres villes, les animations estivales ont dû s'adapter à la situation sanitaire. Mais il reste des propositions que nous présentent Marie-Hélène Guérec, l'adjointe à la culture et au patrimoine, et Didier Cholpin, qui est l'adjoint à la communication et à l'attractivité de Châtelain.
Effectivement, le contexte ne nous permet pas de faire toutes les animations que nous faisions toutes les autres années. C'est vrai que c'est un autre grand regret. Et nous avons pris la décision à la suite du confinement d'arrêter tout ce qui était plus ou moins prévu. On ne savait pas où est-ce qu'on allait. Donc, à part ce qui était prévu en septembre, là, on pense, on espère qu'on pourra les faire. Et jusque-là, malheureusement, il n'y aura pas de... À part des promenades guidées dans la ville avec une dizaine de personnes... Malheureusement, c'est tout ce qu'on a pu garder. Et également un petit concert, un concert avec le groupe Arine qui aura lieu à la chapelle de Kerluan qui se trouve à côté de la voie express le 31 juillet. Et c'est vrai que c'est des concerts qui amènent une cinquantaine, 60 personnes, on espère. Ça, on a réussi à maintenir parce que c'est plus facile à gérer dans une chapelle. Là, on peut voir le nombre de personnes, voilà.
Et donc, pas de feu d'artifice?
Pour les fêtes de Châtelain, normalement, le feu d'artifice sera maintenu. Pour l'instant, il est maintenu.
Alors, c'est le premier week-end de septembre. Donc, ça va être le 6 septembre.
Vous avez refait peut-être un peu les plaquettes de communication de tout ce qui est patrimoine et balade?
Tout ce qui est patrimoine et balade, c'est maintenu, en fin de compte. Donc là, on a la balade. Justement, on a refait une petite plaquette au cœur de Châtelain. Et donc là, pour la petite balade, ça dure une heure et demie. Et en fin de compte, pour que les gens découvrent un point remarquable de Châtelain.
Quels sont-ils, ces points remarquables?
Vous l'avez sur le petit flyer, là.
Oui, mais en radio, ça ne se voit pas.
Donc là, Donc on part du quai Cosmao. Ensuite, on monte par derrière, par la Venelle du Garec. On va au Belvédère. On passe ici à la chapelle Notre-Dame. Après, on va au Vieux-Bourg. On redescend on passe la passerelle. Donc on va à l'église Saint-Idunette. Et ensuite, on repasse le viaduc de l'autre côté. Et puis après, on revient au quai Cosmao.
Ça, c'est une visite, enfin une balade qu'on peut faire en autonomie ou guidée.
En autonomie, il suffit d'avoir le petit flyer. Et en fin de compte, on suit les points remarquables. Il y a une petite carte qui est très bien détaillée. En fin de compte, on peut suivre tout seul, en famille, comme on veut.
Vous avez aussi voulu mettre l'accent sur un patrimoine particulier de Châtelain, c'est l'église Notre-Dame. Pourquoi ?
L'église Notre-Dame, parce que je pense que c'est la première église paroissiale de Châtelain. À l'époque, c'était l'origine de Châtelain, était sur ce côté-ci du canal, avec le vieux bourg qui est juste à côté. Et c'est vrai qu'elle c'est une église, j'ai un lapsus, j'allais dire chapelle, non, c'est une église. Et c'est vrai qu'elle a été très bien restaurée fin des années 90. Et voilà, on souhaitait vraiment la voir ouverte et qu'on en profite un petit peu, que les gens puissent la visiter. Comme nous, voilà. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est un des points forts de Châtelain.
Et qu'est-ce que vous proposez ?
Eh ben, c'est l'ouverture de l'église pendant toute la période estivale. Ça va commencer au 13 juillet jusqu'après le 15 août. Et c'est ouvert le matin, enfin la matinée de 10h30 à midi et l'après-midi également de 15h30 à 18h. C'est, je pense que c'est ça. Avec une personne qui est là, une guide, qui peut permettre de faire découvrir l'église avec ses points forts.
Là encore, vous avez refait la plaquette ?
Oui, nous avons refait une plaquette. Elle existait déjà, mais nous l'avons un petit peu actualisée, modernisée. Et ça permet, les gens qui veulent visiter l'église seuls peuvent le faire avec cette plaquette. S'ils veulent avoir plus de renseignements, ils demandent à Amandine et voilà. Et elle peut les accompagner le temps de leur visite.
Alors, nous allons donc suivre Amandine Moret, la guide saisonnière de la ville de Châtelain, à l'intérieur de l'église Notre-Dame.
Alors l'église que vous avez là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un puzzle, parce que la toute première, elle date du XIe siècle. Et on n'a plus du tout la trace du XIe siècle, donc tout ce que vous avez là, ça va du XIIIe au XVIIIe, à peu près. Donc avec des endroits très anciens, des endroits très récents, et un remaniement de l'église, mais ça se fait beaucoup, en fait, au cours du Moyen-Âge.
Et pourquoi est-ce qu'elle a été installée comme ça, sur ce promontoire, et pas en bas, par exemple, comme l'église actuelle ?
Alors en bas, il n'y avait pas la place, il y en avait déjà une. Donc déjà, on ne pouvait pas installer une deuxième église, mais surtout, elle est liée au château de Châtelain, qui est tout en haut. Et donc, il fallait une église avec le château. On ne peut pas, au Moyen-Âge, ne pas avoir d'église avec un château.
Il en reste quelque chose de ce château ?
Il reste un pan de rempart et une tour. Mais il y a du lierre dessus, donc il faut aller le voir, prendre le temps de le regarder, quoi.
Comment est-ce qu'on peut y accéder ? Parce qu'il n'est pas trop indiqué.
Alors en fait, vous prenez le long entre l'église et la petite chaumière qui est devant. Toujours tout droit, toujours tout droit. On suit le bitume et on arrive sur l'EHPAD. Et en fait, en remontant un petit peu sur le parking de l'EHPAD, on voit le rempart et le bout de tour.
Les pattes des collines bleues, je précise. Alors, cette église, qui est une église, c'est quoi? Est-ce que c'est pas une chapelle, justement? C'est ça, c'est quoi la différence?
Alors, la différence, c'est que dans une église, vous avez des fonts baptismaux et dans une chapelle, il n'y en a pas. Et donc, on a retrouvé il n'y a pas longtemps la trace des fonts baptismaux qui permet maintenant de dire que c'est une église. Mais si vous demandez à tous les châtelinois, c'est une chapelle.
Depuis combien de temps on sait que c'est une église?
Alors, je crois que ça fait 5-6 ans, enfin, pas si longtemps que ça.
Alors, qu'y a-t-il de remarquable dans cette église?
Ce qui est remarquable et ce qui est intéressant, les gens passent souvent devant sans vraiment le voir. Donc, c'est un tableau qui représente la vie de Saint Crépin et Saint Crépinien, qui en plus sont absolument pas connus nulle part. Enfin, apparemment, si, dans certaines régions. Et ce sont les saints des cordonniers. Donc, c'est assez particulier parce qu'en fait, au château, il y avait beaucoup d'artisanat en fait, autour du château, donc beaucoup de cordonniers qui ont fait un don à cette église-là, ce tableau.
Et c'est un tableau. Décrivez-le, ouais.
C'est un tableau, au centre, en fait, vous avez un atelier de cordonnier un petit peu aménagé, amélioré, avec des rideaux rouges, hein, c'est très, très, très richement décoré. Et sur les côtés, vous avez une espèce de petite BD, des petits médaillons, où on voit le martyr de Saint Crépin et Saint Crépinien, qui sont des saints de l'époque romaine, qui étaient chrétiens, donc c'était très très mal vu. Et donc tout le long, vous avez ce qu'ils ont dû à subir. Donc vous avez par exemple, ils ont été mis à l'eau avec des roues de moulin, pour pas remonter, parce que quand même, mis à cuire dans un chaudron, etc. Enfin, il y a des choses fort sympathiques. Et c'est comme ça qu'ils deviennent les saints des cordonniers, parce qu'ils se cachent dans un atelier de cordonniers avant d'être arrêtés. Et c'est comme ça qu'ils deviennent martyrs, saints cordonniers, et donc qu'on retrouve ce tableau-là à Châtelain, dans cette église-là.
Et donc au centre, ce sont eux en train de réparer des chaussures, apparemment.
Oui, en train de travailler sur des chaussures qui sont assez contemporaines, faut dire.
Et on peut s'amuser à compter le nombre de chaussures ou de paires de chaussures sur le tableau en plus.
On peut tout à fait s'amuser à les compter. Et puis, moi, il y en a certaines qu'on peut retrouver l'année prochaine dans les magasins en solde. Il n'y a pas de souci, hein, si vous regardez bien. Et des petites bottines assez sympas.
Alors, il est assez sombre. Je pense que c'est parce qu'en fait, il aurait besoin d'une restauration.
Et le fait d'être face à la porte, la lumière, ce n'est pas forcément ce qui améliore beaucoup les tableaux. Après, ça le met aussi en valeur, mais il est assez sombre avec une restauration qui serait méritée. Mais bon, il n'est pas non plus très dégradé, donc il y a d'autres choses plus urgentes en fait, à faire.
Alors, quoi d'autre de remarquable? Alors, vous nous présentez Jeanne.
C'est ça. Donc, Jeanne, on a ici en fait la seule pierre tombale qui est d'origine dans l'église. Parce que si on regarde par terre, il y en a partout. C'est une pierre tombale du Moyen-Âge, donc 1324. C'est la femme du duc de Châtelain. Donc la femme de la personne qui était dans le château de Châtelain, qui a demandé à être enterrée dans son église, et le plus près possible du cœur. C'est-à-dire qu'en fait, au Moyen-Âge, plus vous êtes riche, plus vous vous rapprochez de la tête de l'église, et si vous êtes un peu moins riche, ben vous êtes tout au fond.
Voilà. Alors je lis Jotanne, c'est Jotanne, mais c'est pas grave, on dit Jeanne.
C'est Jeanne, en fait, il y avait deux options, Johan et Jeanne.
Et de Trézéguidi, vicomtesse du Fou, c'était ça le titre?
En fait, le vicomte du Fou, c'est le propriétaire du château de Châtelain.
Il avait un autre château aussi ailleurs, je suppose?
Alors lui, non, le château de Châtelain appartient au duc de Bretagne, et il met le vicomte du Fou à l'intérieur pour surveiller la zone de Châtelain.
On sait des choses de cette Jeanne de Trézéguidi?
Alors elle fait partie d'une famille qui est une grande famille à côté de Plébin, dont le père est assez remarqué pour ses faits d'armes pendant les guerres du Moyen-Âge.
Et elle est morte en 1324, c'est ça.
Alors vous avez ici une statue qui est beaucoup plus mise en valeur d'habitude parce qu'on allume, etc., pour qu'on puisse la voir, qui est très belle. Un sujet qui n'est pas courant, vous avez Sainte-Anne, Marie et l'enfant Jésus.
Donc c'est plus qu'une nativité, c'est les trois générations.
Voilà, c'est les trois générations, la grand-mère, la mère et le petit-fils. Sainte-Anne lui donne à Jésus une grappe de raisin qui signifie en fait les malheurs qu'il va être obligé de subir. Donc elle le prévient en fait en faisant ce geste-là. Et c'est une statuaire qui n'est pas courante, qui est en granit en Bretagne, qui d'habitude se fait en bois et qui est beaucoup plus expressive en fait. Donc c'est une des plus anciennes statues de l'église. Et ce qui est très intéressant, moi, c'est sur quoi je reste, c'est que c'est une statue qui avait 23 couches de peinture.
Oui, parce qu'elle est encore un peu colorée, quand même.
Alors, elle est même très colorée pour l'époque, parce qu'à force de la repeindre, on a fini par préserver, en fait, la couche d'origine. Mais les 23 couches de peinture, je vous prie de croire que tous les détails, on ne voyait plus grand-chose. Donc, on a fini par la nettoyer, et l'objectif, c'est de nettoyer à la peinture la plus ancienne conservée le plus possible. Ça ne sert à rien d'aller retrouver celle d'origine si c'est pour avoir un petit bout sur la robe et puis voilà, etc.
Et ils ont des vrais visages assez bretons, hein, faut dire.
Oui, puis ils ont une expression très douce en fait, je trouve.
Ah, sauf l'enfant Jésus qui a un petit côté espiègle.
C'est pas sa tête. C'est pas sa tête d'origine. Si on regarde bien, on peut voir en fait ici un espèce de joint Et on peut supposer, et c'est même quasiment admis, que sa tête a été abîmée. On lui a refait une tête parce que quand même, on ne va pas le laisser décapiter, surtout si le reste de la statue est totalement intact. Et donc, on lui a refait une tête. Si on regarde bien, les yeux ne sont pas tout à fait les mêmes et l'expression non plus. Donc, le jeu en fait, que je propose, quand j'ai surtout des familles ou des choses comme ça, c'est de chercher le coq. Parce qu'on a beaucoup d'animaux, on a un griffon, on a des pommes de pin, on a un coq. Et on en a quelques-uns aussi sur le calvaire. Et donc, sur un des chapiteaux, alors je ne donne pas la solution en général, j'attends que les gens cherchent. Sur un des chapiteaux, on a des fleurs et on a un coq, mais on ne sait absolument pas pourquoi. Alors cette guirlande de fleurs, elle est inspirée du plus ancien pilier de l'église. C'est-à-dire qu'on va refaire, pas à l'identique, mais similaire pour pouvoir avoir une unité dans l'église. Et on cherche toujours pourquoi il y a un coq, si quelqu'un a la solution.
On lance un appel, ok. Alors le plafond est décoré comme dans beaucoup d'églises bretonnes, mais... Alors, il peut sculpter sauf les quatre évangélistes, en fait, c'est ça? Enfin non, il y a même plus que quatre évangélistes.
Il y a plus que ça. Il n'y a pas forcément... Alors, j'ai eu un prêtre qui était en visite qui n'a pas repéré forcément les quatre évangélistes. Il est très peu sculpté parce qu'il est très récent. En fait, il a été refait plutôt au 19e. Et les seules sculptures qu'on peut imaginer d'origine... Alors, sans lumière, ça va être compliqué. En fait, la poutre qui est devant l'orgue, de chaque côté, vous avez un espèce de dragon, un engoulevent qui prend les deux poutres de chaque côté, et ça on peut imaginer que ça fait partie des pièces les plus anciennes. Tout le reste est beaucoup plus récent, on va pas s'amuser à faire des dragons à chaque poutre, mais on peut imaginer que ça c'était plus ou moins d'origine en tout cas.
Et l'orgue, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus?
Alors l'orgue, ce qu'il y a à dire, c'est qu'il n'était pas prévu d'être là en fait du tout. C'est un orgue qui a été acheté par l'église du centre-ville, qui a été entreposé ici parce que l'église avait des travaux, en fait l'église du centre-ville était en travaux, prenait l'eau, etc. Donc on ne pouvait pas garder un instrument aussi fragile. On l'a posé à Notre-Dame, et quand on est venu le récupérer, entre-temps on avait agrandi l'autre église, donc il était trop petit. Donc on a proposé à Notre-Dame, si vous le voulez, vous le gardez. Donc c'est un orgue 19e.
Qui est quand même beau, hein. il ne départ pas trop.
Il a été entièrement rénové il y a deux ans ou trois ans. Et l'orgue de Saint-Ilunette, lui, a été rénové l'année dernière. Donc il est en fonctionnement, il est totalement jouable.
Donc vous proposez des visites un peu libres, enfin un peu à la carte, c'est ça, de cette chapelle, et gratuit, il faut préciser?
Oui, donc c'est des visites gratuites, pas obligatoires du tout. Moi, je suis à disposition. S'il y a des gens qui ont juste des questions, je les laisse faire. S'il y en a qui veulent faire leur visite totalement libre, ils la font aussi. Et c'est plus un échange que vraiment une visite. Après, il y a la possibilité de faire une visite complète de l'église.
Et quand vous faites visiter le circuit, donc cette fois dans la ville de Châtelain, il y a un jour précis ou...
Alors c'est le mardi soir, départ à 20h. Après, il faut voir encore les modalités par rapport à l'épidémie, etc. Donc en fonction s'il y aura des réservations ou pas. Donc il faut se renseigner avant. Et c'est à peu près 2h.
Et là, qu'est-ce que vous faites visiter?
Là, je fais visiter tous les petits coins qu'on ne connaît pas de Châtelain et beaucoup de curiosités que même les châtelinois ne connaissent pas.
Ah oui, par exemple ?
La carrière, le tribunal, l'ancien tribunal et puis l'histoire de Châtelain aussi, comment s'est construit Châtelain.
Les balades commentées pour découvrir Châtelain, c'est jusqu'au 18 août. Quant à l'accueil personnalisé à l'église Notre-Dame, c'est jusqu'au 21 août et c'est gratuit.